Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Deveau.
Bonjour, bienvenue dans notre émission Au fil des pages, une émission qui est aujourd'hui consacrée à la nouvelle collection À ce frère en partage, éditée chez André Versailles Éditeur. André Versailles qui nous fait par ailleurs le plaisir de venir ici dans nos studios à Canal Académie présenter cette nouvelle collection. André Versailles, bonjour.
Bonjour Julie Deveau.
Vous êtes éditeur. La maison d'édition que vous avez créée début 2008 porte d'ailleurs votre nom André Versailles Éditeur. Vous êtes installé à Bruxelles en Belgique. Alors, vous avez créé cette maison d'édition suite à votre départ de la maison d'édition Complex courant 2007, dont vous étiez par ailleurs le fondateur. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur André Versailles Éditeur? Quels sont ses objectifs et à quel public s'adresse-t-elle?
Donc effectivement, j'avais fondé en 71 les éditions Complex et puis par tous des aléas, je veux dire, cette maison a été reprise par un groupe français. Donc après ça, j'ai créé une nouvelle maison d'édition avec l'équipe qui travaillait avec moi et qui est une maison d'édition qui est un peu dans le prolongement de ce que je faisais aux éditions Complex, c'est-à-dire consacrée à l'histoire, à la science politique et également à la littérature. Donc les choses que l'on voulait, que l'on voudrait faire, c'est des ouvrages de référence. Je pense par exemple, on a publié un très gros volume d'un millier de pages sur les 100 discours qui ont fait le XXe siècle, qui ont vraiment marqué le XXe siècle. Donc on a les discours, mais également toute l'analyse des discours, pourquoi ce discours à telle époque, comment il a été reçu, etc. Dans le même ordre d'idées, on a aussi un volume d'un millier de pages qui est l'histoire contemporaine des États-Unis due à Pierre Mélandry, qui est une somme et qui a eu une presse tout à fait unanime, qui est, je crois, vraiment un ouvrage fondamental sur les États-Unis, ou bien des ouvrages sur les enjeux du XXIe siècle. C'est Elie Barnaby qui a inauguré la collection avec un ouvrage qui s'appelle « L'Europe frigide », vers quoi va l'Europe, vers quoi peut-elle aller, ou bien Hobsbawm sur le fameux Eric Hobsbawm, l'auteur de l'âge des extrêmes, qui a fait un ouvrage sur la démocratie, l'empire américain et le terrorisme, ou bien des ouvrages comme celui qui vient de sortir sur Guantanamo. Donc voilà à peu près le type d'ouvrage que l'on publie. On en a sorti une trentaine en un an. On a commencé en mars 2008 et en mars 2009, il y en avait une trentaine. Il va y avoir en principe, notre programme est d'une quarantaine pour l'année prochaine, pour 2010. Donc voilà en gros tout ce qui concerne les ouvrages, les essais, les ouvrages de référence. Et nous venons de démarrer, il y a un mois et demi maintenant, une nouvelle collection qui s'appelle « À s'offrir en partage », qui est une collection de textes littéraires dont on va parler tout à l'heure.
Donc vous êtes non seulement éditeur de livres, mais vous proposez également de l'édition en ligne. C'est un fait tout à fait nouveau dans le monde de l'édition. Pourquoi avoir choisi ce mode de fonctionnement?
Alors, pour moi, c'est très important. En deux mots, quand Complex a été arrêté en Belgique et que tout le monde a été licencié, j'ai vécu très mal cet arrêt. Je me suis même dit que j'allais arrêter de faire de l'édition. Et brusquement, je me suis dit que c'était absurde parce que si le métier d'éditeur devient passionnant, beaucoup plus passionnant qu'avant, c'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'avant, on faisait à peu près le même métier que ce que faisait Michel Lévy sous le Second Empire. On constituait un fonds, on travaillait sur l'ouvrage papier et tout ce que j'avais appris en 30 ans, 35 ans, je continue à l'appliquer. Maintenant, il y a un bouleversement dans l'appréhension de l'information et l'appréhension de la culture et du fait d'Internet. C'est-à-dire qu'il y a une révolution qui, je crois, est fondamentale, beaucoup plus importante qu'on ne le pense. Vous savez qu'on compare Internet à Gutenberg. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus important et très différent de ce qu'a fait Gutenberg. Gutenberg a perfectionné un système, c'est-à-dire qu'il a inventé les caractères mobiles, mais ça ne changeait rien à la lecture. On lit un incunable, c'est-à-dire un livre d'avant l'imprimerie, de la même façon qu'on lit un livre imprimé. Donc, ça ne change pas le mode d'appréhension, de la connaissance par le livre. Je comparais Internet à la radio, si vous voulez. C'est-à-dire, brusquement, au lieu d'avoir de se renseigner, d'apprendre par les yeux, on apprend par l'oreille. Et ça a ouvert un champ extraordinaire. Alors aujourd'hui, il y a énormément de critiques sur Internet. Et toutes les critiques formulées sont toutes légitimes. Que c'est tout et n'importe quoi. Que ce n'est pas fiable. Que tout est vrai. Toutes les critiques sont vraies. Mais Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un outil. À nous d'en faire quelque chose. Et je dirais que ça ressemble aussi à l'invention du cinéma. Quand le cinéma est né, il n'y a pas un romancier, pas un homme de théâtre, pas un intellectuel qui s'est intéressé au cinéma. Et tout le monde disait, c'est un art forain. Ce qui était vrai. Même les frères Lumière, les inventeurs, disaient que c'était un amusement, que rien n'allait en sortir. Et ce sont des saltimbanques qui ont inventé le cinéma. C'est Max Ennett, c'est Chaplin, c'est Griffith, etc. Il faudra attendre une génération pour qu'on se rende compte que le cinéma, ce n'est pas un amusement, c'est véritablement un art. Et quel art ? Il est évident qu'il va sortir une culture et une vraie culture d'Internet. Pas la culture qu'on a maintenant, on a déjà une petite culture Internet, mais qui n'est pas très significative. Et ce qui me passionne, c'est de me dire que maintenant, avec cet outil-là, on peut décliner la connaissance sur un mode multimédia. C'est-à-dire que, et c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire nous faisons autour des bouquins, autour de certaines collections, des sites compagnons, ce qu'on appelle un site compagnon, c'est-à-dire qu'on prolonge le travail de l'auteur en ligne. C'est-à-dire qu'on publie un livre, bien évidemment. Je précise, parce que c'est important, que je suis un homme du papier, du vieux papier. J'aime les vieux livres, l'antiquariat, les autographes, j'adore ça. J'adore ça. Donc je suis vraiment très traditionniste et conservateur. N'ayons pas peur de lire, conservateur, le livre, le très beau livre de la fin du 19e siècle, enfin voilà. Mais Internet, c'est autre chose, c'est le savoir. Et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une division entre deux types de livres. Des livres qui ne servent à rien, mais qui nous sont essentiels, c'est-à-dire c'est la poésie, l'essai, la philosophie. On aura toujours besoin du livre même. Et puis il y a le savoir, c'est-à-dire quelque chose qui est moins pérenne, qui est des choses beaucoup plus d'actualité, l'encyclopédie, parce que ça évolue tout le temps, etc. Et ça, je pense, va passer tout à fait sur Internet, parce que sur le site, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on peut faire dans même l'encyclopédie la plus complète du monde. Donc, c'est ça qui est en train de se mettre en route. Et ce qui est aussi extraordinaire avec Internet, c'est que contrairement à ce qu'on pense, je crois, moi, qu'Internet ne va pas du tout tuer le livre, mais va le ressusciter. Parce qu'il y a des milliers de livres, des millions de livres qui ne sont plus édités pour des raisons de marketing éditorial. Voilà. Parce qu'on ne pourrait les tirer qu'à 100 exemplaires. Et on peut pas faire un tirage pour 100 exemplaires. Même si ça marche, ça ne marche pas. Ça ne rapporte rien. Maintenant, on va pouvoir faire avec les nouvelles imprimantes aujourd'hui, on peut tirer le livre à l'exemplaire. Donc on peut avoir un catalogue virtuel et qui, au fur et à mesure des demandes, des bibliothèques, des instituts, etc., vendre en ligne, effectivement, des textes, soit, d'autre part, de le fournir en papier. Et pour ça, on n'est pas obligé d'avoir 2000 exemplaires en stock. Donc il y a tous les possibles. Et quand je parlais du site compagnon, c'est-à-dire, c'est permettre à un auteur de mettre tout ce qu'il a amené à faire ce livre. Vous savez, Flaubert disait, ce ne sont pas les perles qui font le collier, pardon, c'est le fil. Donc il disait par là qu'un livre doit avoir une rigueur, ça doit avoir une colonne vertébrale, et tout ce qui n'est pas indispensable est inutile. Et il avait raison. Internet, c'est le contraire. Vous pouvez avoir des sacs de perles. Vous faites un livre sur les États-Unis, l'auteur a publié une trentaine d'autres articles qu'il n'a pas intégrés dans son livre parce que ça n'entrerait pas dans l'économie générale de l'ouvrage, mais ce sont toute une série de documents en plus qui peuvent intéresser le public. Et alors, on le donne pour ce que c'est. En plus, c'est gratuit. Je veux dire, on ne fait pas payer pour quelque chose qui n'est pas ficelé. C'est tout à fait cohérent, mais ce n'est pas mis en perspective de la même façon que ce le serait dans un livre. Et donc, ça permet de mettre une énorme information auprès du public autour de chacun des bouquins.
Et donc, est-ce que vous avez déjà eu des retours d'internautes par rapport à ce nouveau fonctionnement?
Oui. Alors, il y a des retours, effectivement. Alors, la maison n'existe que depuis un an, donc le site n'existe que depuis un an. Mais on est aujourd'hui à plus de 30 000 personnes qui viennent par mois. Ce qui, en un an, à côté de Canal Academy, c'est absurde. Mais, je veux dire, par là, il y a des gens qui viennent.
Il y a de bons retours, en fait.
Des retours et des gens qui viennent parce que un site d'éditeur, c'est, je caricature un petit peu à dessin, mais c'est en gros un catalogue en ligne. Bien fait, avec des moteurs de recherche, etc. Ici, moi, ce que je voudrais, c'est que les gens viennent, non pas pour savoir si tel livre est paru et à quel prix, mais parce qu'il y a, ça respire la culture, et qu'il y a plein de choses. Par exemple, il y a beaucoup de vidéos, pas simplement où l'auteur présente le livre, ça c'est un peu classique, mais à partir de débats qui sont suscités dans le livre. Je parle des histoires des États-Unis, bilan des années Bush. Et ce sont des choses qu'on va continuer à faire, c'est-à-dire qu'autour du livre, on peut poursuivre ces espèces d'émissions de vidéos, voyez-vous. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas faire par le livre, mais qui sont autant de compléments d'informations qui peuvent intéresser le lecteur. Et là, je vois, parce que Google, avec le moteur de recherche Google, qu'on appelle Google Analytics, vous pouvez voir mais combien de gens sont venus sur le site, quelle page a été vue, combien de temps ils sont restés, combien de fois ils sont... Enfin, le nombre de visiteurs uniques et tous ceux qui reviennent, il y a énormément de gens qui reviennent.
Donc, nous allons revenir sur cette nouvelle collection qui vient de paraître au sein de votre maison d'édition André Versailles Éditeur. Elle s'intitule « À s'offrir en partage ». Pourquoi avoir choisi ce nom « À s'offrir en partage » André Versailles ?
Alors, parce que quand j'étais gosse, j'adorais offrir des livres à mes amis, mes petites amies, etc. J'offrais des bouquins. Et parce que dès que j'avais lu quelque chose, il me semblait urgent de pouvoir le communiquer. Bon, ça m'a passé maintenant. Mais j'ai encore toujours ça, c'est-à-dire l'envie de faire lire ce que j'aime, de partager véritablement la lecture. C'est un exercice qui n'est pas un exercice uniquement solitaire. On a envie de... Enfin, moi, mais je crois que beaucoup de gens ont envie de partager, de dire tiens, lis ça. Et je m'en suis ouvert à certaines personnes qui sont devenues des préfaciers. C'est-à-dire à des gens comme Pierre Assouline, à des gens comme Barnaby, Jean Daniel, Jean Lacouture, Max Gallo, et Michel Lebris et d'autres, pour leur parler de cela. Et l'idée, c'était de leur demander de faire une préface, mais pas du tout une préface érudite, pas du tout une préface qui situe le texte dans l'œuvre générale de l'auteur. Ça, c'est fait en postface par des universitaires qui le font très bien. Ici, c'est dire, voilà pourquoi j'aime. C'est Sade et moi. C'est Rodin et moi. Par exemple, je savais que Jean-Daniel, il m'avait dit, mais il y a 20 ans, il avait complètement oublié qu'il me l'avait dit d'ailleurs, qu'il adorait Rodin, qu'il aurait aimé être Rodin. Donc, j'ai demandé de faire un texte sur Rodin et lui. Lacouture a fait un texte qui est exactement ce que je pensais, mais c'est lui qui a trouvé la formule. Il dit, il existait une très belle collection autrefois qui s'appelait « Ce que je crois ». Je rêve d'une collection qui s'appelle « Ce que je dois et à qui ». Comment je suis devenu celui que je suis devenu, grâce à quelle lecture? Et donc, il a choisi Dumas, parce qu'il adore Dumas. C'est Dumas qui l'amène à l'histoire et c'est Dumas qui l'amène aussi à être en prise sur l'actualité. Et c'est ce qu'il raconte dans un texte très libre. Donc, ce n'est pas un texte érudit, c'est véritablement la manière dont il appréhende Dumas et tout ce que Dumas lui a apporté. Donc, si vous voulez, il y a un partage à tous les niveaux. Moi, j'ai envie de partager, je vois avec des hommes et des femmes de culture qui apportent leur préface et je voudrais que ces ouvrages sont des ouvrages auxquels on apporte beaucoup de soins. Je veux dire, on essaye de faire de très jolis objets pour que les gens aient envie de se les offrir aussi. Vous aimez Maupassant, tiens, je te passe cette nouvelle de Maupassant, L'Héritage, qui pour moi est une des plus belles nouvelles. On se rencontre, je suis invité un soir et j'apporte ça, c'est le prix d'une rose et demie. Voilà, et c'est quelque chose qui est un témoignage. Le livre a ceci de différent. Je veux dire, c'est quelque chose qui reste un témoignage autour de l'amitié.
Le fait que des écrivains reconnus, journalistes ou non, comme Pierre Assouline, Denis Tillinac, présentent ces petits ouvrages littéraires, était-il voulu ? Est-ce les écrivains qui sont venus vous proposer ces ouvrages ? Ou bien est-ce vous qui les avez sollicités ?
Non, c'est moi. D'abord, je les connaissais pratiquement tous, personnellement. Donc, je connaissais leur goût. J'en ai discuté avec eux avant de commencer. J'ai dit, voilà, j'ai envie de faire une collection. Et j'aime bien avoir le regard d'autres personnes, même très critiques. Cette collection est meilleure que celle que je pensais faire au départ, parce que j'ai eu des critiques d'amis, puisqu'il y a plusieurs qui sont des amis. Et donc, le projet a évolué aussi avec eux. Et non, c'est moi qui ai proposé, parce que la collection, il n'y a que 10 livres qui sont sortis. Il y en a 8 qui sortent à la rentrée, et puis on va être autour de 20-25 par an à partir de l'année prochaine. Mais c'est aussi les conversations. Par exemple, l'idée, Barnaby, c'était, on a choisi avec Élie Barnaby un petit texte de Tocqueville à l'intérieur de La démocratie. Vous savez que La démocratie en Amérique est un livre qui fait environ 1000 pages. Si vous dites à quelqu'un, il faut que tu lis ça tout de suite, il n'est pas sûr qu'il va le faire. Mais vous lui donnez un ouvrage d'une centaine de petites pages qui parle de la démocratie et des mœurs. Qu'est-ce que la démocratie a changé quant aux mœurs ? Ça se lit en 1h30, à tout près c'est 2h, et vous avez goûté à Tocqueville. Vous vous rendez compte que c'est magnifique, que c'est brillant d'intelligence, que c'est écrit au 19e siècle, et on a l'impression qu'il l'a écrit, à part quelques détails évidemment, que c'est écrit maintenant à notre époque, quoi. Donc c'est une manière aussi de faire rentrer des gens en littérature en leur donnant pas une anthologie, mais certaines parties de livres qui vous permettent d'aller plus loin.
Alors on note que certains auteurs ou écrivains qui présentent en préface les livres de cette collection à s'offrir en partage sont des académiciens comme Max Gallo, Antoine Galland, Alexandre de Tocqueville, Rudyard Kipling ou encore François René de Chateaubriand. Comment vous êtes-vous mis en contact avec Max Gallo par exemple ? Était-ce un choix de votre part de présenter des académiciens dans cette collection ?
Bien sûr, on se connaissait un petit peu, donc j'ai été le voir, je l'ai appelé, je lui ai dit « écoutez, je voudrais vous présenter un projet ». Et je lui ai dit que j'ai pensé à lui pour les mémoires d'outre-tombe. Et je lui ai proposé un sujet, parce que je sais qu'il s'intéresse beaucoup à Chateaubriand et encore plus à Napoléon. Donc c'est un chapitre magnifique qui s'appelle « La fin de Napoléon », qui est, à mon sens, un des jugements les plus percutants qu'on ait sur Napoléon. Encore une fois, ça fait 100 pages. Vous avez un bilan de l'homme et de l'œuvre. Enfin, surtout de l'œuvre, mais aussi un portrait de l'homme. Et Chateaubriand peut être cruel, mais il n'est pas injuste. Et il a une acuité extraordinaire pour parler de Napoléon. Et vous n'avez qu'une envie, une fois que vous avez eu ces 100 pages, de dire je vais reprendre les mémoires d'outre-tombe et je vais continuer à voir. Quoi.
On peut lire en deuxième page que la publication de ces ouvrages à ce frais en partage a été subventionnée par la communauté française de Belgique. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette subvention ?
Oui, c'est-à-dire que c'est un projet culturel, c'est une vision un peu patrimoniale de la littérature, des choses qu'il faut maintenir en vie de toutes les manières possibles. Pas qu'il y ait uniquement des éditions classiques, mais l'habiller parfois autrement. Et en Belgique, il y a c'est un peu comme le CNL, si vous voulez, il y a des aides pour des projets comme ça, pour les mettre en route, pour étudier la faisabilité, pour avoir des crédits à l'impression. Et donc, je l'ai présenté. Ils étaient assez enthousiastes pour le projet. Et ils m'ont dit, on va vous suivre, etc. En tout cas, pour les premiers titres. Et effectivement, ils m'ont suivi. Et ça m'a permis de mettre des livres à 5 €, alors que sinon, ils auraient été plus chers. Ils auraient été mis un prix plus cher.
Alors, À ce frère en partage est une collection très abordable, puisque chaque livre ne coûte que 5 €. Est-ce une façon de permettre à tous de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires en se les offrant en cadeau ?
Oui, absolument. Mais en même temps, je ne voudrais pas que ce soit des livres de poche au rabais, justement. Vous les avez vus, je veux dire, c'est des ouvrages avec une très jolie couverture, une découpe qui s'ouvre sur un tableau. Donc, l'impression est en deux couleurs, avec les titres courants dans une couleur, etc. Donc, on voudrait en faire de jolis objets, c'est-à-dire qu'on espère même des collectionneurs, mais pas des collectionneurs dans le sens maniaque, mais les amoureux de la littérature. Je prends mon cas. Moi, j'ai Madame Bovary, je crois, en 8 ou 10 versions différentes, sans compter la Pléiade. Vous voyez, j'ai ça pour la Chloé et pour d'autres. Et le fait, par exemple, d'avoir un texte auquel je tiens beaucoup, l'avoir dans une collection séparée, je prends Maupassant encore une fois, la nouvelle est dans Miss Harriet. Je veux dire, j'ai Miss Harriet aussi, mais j'aurai ce volume-là pour L'Héritage, qui est une nouvelle que je trouve exceptionnelle. Je suis content de l'avoir séparément, voilà, avec justement un mot d'Assouline avant qui explique lui son attachement à Maupassant. Donc oui, il y a ce côté, même si on a l'œuvre complète, il est agréable d'avoir l'œuvre séparée, détachée, comme quelque chose en soi.
Mais justement, quelle œuvre avez-vous préférée dans cette collection ? Vous avez une préférence ?
La prochaine qui va sortir. Non, je dis ça, c'est parce que j'ai dû me faire violence, et heureusement que je l'ai fait, évidemment. J'aurais aimé les présenter toutes moi-même. Très franchement, j'aurais aimé faire toutes les préfaces et expliquer au lecteur, je publie ça, voyez pourquoi. Bon, ça n'a aucun sens, évidemment, et je préfère avoir des gens d'abord plus autorisés que moi. Et justement, je préfère que ce ne soit pas quelque chose de personnel, mais que nous fassions, c'est une espèce de constellation comme ça, d'amis ou d'amoureux de la littérature et d'amoureux de la culture qui se renvoient un petit peu les uns aux autres. Et donc, c'est pour ça que je préférais évidemment que ce soit les personnes amies dont je vous ai parlé et qui sont des gens qui sont brillantissimes, qui présentent chacun des titres.
Comme vous le soulignez, d'autres ouvrages à s'offrir en partage sont à paraître. C'est une grande collection que vous offrez aux lecteurs. Pensez-vous que cela va permettre à certains lecteurs de se réconcilier avec les ouvrages classiques ?
Alors là, c'est l'autre raison. Je suis très triste de voir la diminution drastique de l'intérêt pour les classiques. Qu'est-ce que c'est qu'un livre classique ? Si un livre a traversé le temps, 200 ans, 300 ans, c'est pas par hasard. Je pense que la littérature classique, à un certain niveau, est quelque chose qui vous structure. Le fait de manquer de culture est quelque chose qui me semble presque aussi grave que la pauvreté. C'est-à-dire que la culture est quelque chose qui nous permet d'affronter le réel. La différence avec les essais, même de gens très intelligents, c'est que des écrivains vous font passer dans ce qu'on pourrait appeler, mais d'une autre manière, l'ère du soupçon. Le soupçon qu'il y a autre chose aussi. Vous pousse à aller plus loin en vous-même. Pas simplement des outils pour comprendre comment le monde fonctionne. La culture n'est pas séparée de la vie. La culture est ce qui donne de la vie à la vie. Et il y a un exemple extraordinaire dans le film et dans le livre Balzac et la petite tailleuse chinoise, où on voit qu'est-ce que c'est tout ce que peut apporter la littérature classique. Et c'est une extraordinaire école, mais dans le beau sens du terme. C'est-à-dire, moi j'ai appris par les classiques. J'ai vraiment appris, j'ai une partie autodidacte parce que j'ai lu les classiques, pas du tout à l'école, je veux dire, c'est après, enfin pas après, en même temps, mais je le lisais à la lampe de poche sous les couvertures, je veux dire, c'est quelque chose qui m'a structuré. Et je pense que c'est ça qui fait la force des classiques. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, lorsqu'on représente des classiques parfois au théâtre, on se sent obligé de mettre Phèdre en Perfecto et en Santiago. C'est absurde. L'idée n'est pas de simplifier les classiques pour les rendre abordables, c'est d'amener le public à voir tout ce qu'il peut y avoir dans le classique. C'est-à-dire, c'est comme le tourisme, c'est pas voir en 5 minutes tel château, mais c'est de faire entrer et de montrer ce qui se passait dans ce château. C'est une appréhension de quelque chose qui est, pour moi, vital. Et le fait, justement, de pouvoir le faire de manière douce, avec des livres de 100 pages et pas en assommant quelqu'un avec 2000 pages en espérant qu'il aille après lire les 2000 pages de l'œuvre complète, c'est une manière justement de les amener par le plaisir, par l'esthétique à quelque chose qui pour moi, je sais que c'est par là que je respire.
Eh bien merci André Versailles pour être venu nous présenter cette nouvelle collection « À s'offrir en partage ». Je rappelle qu'elle se trouve aux éditions qui portent votre nom André Versailles éditeur au prix de 5 euros. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site internet de cette maison d'édition au www.andreversaillesediteur.com qui propose en plus de l'édition de livres une édition en ligne. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle émission au fil des pages.
Merci Julie Deveau.